vers la Normandie, la Picardie, le bassin parisien dans la soirée. Et attention, là, dans ce secteur, les orages pourraient être forts.
Merci à vous, Rémi André. Je vous souhaite un excellent réveil sur Sud Radio. Vous êtes bien dans le petit matin, il est 5h.
Parlons vrai.
Le journal de 5h nous est présenté par Clément Barguin. Bonjour Clément.
Bonjour Benjamin, bonjour à tous.
Le bilan ne cesse de s'alourdir. Au moins 265 personnes sont mortes après le crash d'un Boeing 787 de la compagnie Air India. On y revient dès le début de ce journal. Les autres titres de l'actualité, Clément.
Le collégien de 14 ans qui a poignardé une surveillante de son collège à Nogent, mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire. Il encourt une peine de 20 ans de réclusion criminelle. Faut-il conditionner les APL aux revenus des parents? C'est en tout cas ce que suggère un rapport parlementaire pour financer la réforme des bourses étudiantes. Et puis placé en détention provisoire depuis un an dans l'enquête sur les émeutes mortelles en Nouvelle-Calédonie, le leader indépendantiste kanak Christian Tin a été libéré par la justice.
Mais tout d'abord, ce pourrait être l'une des pires catastrophes aériennes du 21e siècle. Un Boeing 787 d'Air India s'est écrasé quelques secondes seulement après son décollage.
L'appareil devait relier la ville d'Ahmedabad dans le nord-ouest du pays à Londres avec 242 personnes à son bord. Peu après son décollage, pour une raison encore inconnue, l'avion a émis un appel de détresse avant de percuter un bâtiment où sont logés des soignants et leurs familles. Le bilan encore provisoire fait état d'au moins 265 morts. Gérald Feldzer, président d'Aviation Sans Frontières.
Il y a eu un incident au pire moment, c'est-à-dire au décollage, là où il est très lourd, parce qu'il va faire 9 heures de vol, et il est plein de carburant, donc complètement inflammable. Alors maintenant, il faut savoir les causes. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être le carburant qui est de mauvaise qualité, qui a éteint les deux moteurs, des oiseaux qui ont été ingérés, des commandes de vol électriques qui n'ont pas fonctionné. Donc tout ça, ça va être analysé par les boîtes noires. Et là, on va comprendre un peu plus ce qui s'est passé. Ils ont eu le temps, malgré tout, de lancer un message de détresse qui s'appelle m'aider et ils n'ont rien pu faire, c'est vraiment dramatique.
Un homme a miraculeusement survécu à ce crash. Il s'agit d'un Britannique de 38 ans qui occupait le siège 11A situé à proximité de la porte de sortie de l'appareil. Légèrement blessé, l'homme a été transporté à l'hôpital.
Et des enquêteurs britanniques et américains vont être déployés sur place pour aider aux investigations.
L'avionneur américain qui retombe dans la série noire d'accidents, le Dreamliner 787 est pourtant l'un des modèles les plus sûrs du marché. L'action Boeing a chuté de plus de 5% à l'ouverture de la bourse de New York.
L'actualité, c'est aussi cet adolescent de 14 ans accusé d'avoir poignardé à mort une surveillante. Il a été mis en examen pour meurtre aggravé.
Le collégien a été placé en détention provisoire. Il encourt une peine maximale de 20 ans de réclusion criminelle. La famille de Mélanie organise une marche blanche en fin de journée. Elle partira du collège Françoise Dolto de Nogent à 18h.
L'exécutif, lui, continue d'afficher sa volonté de mieux sécuriser les établissements scolaires.
François Bayrou l'a redit, il veut que le gouvernement travaille à l'expérimentation de portiques de détection d'armes à l'entrée des établissements scolaires.
Mais on ne peut pas rester les bras croisés, on ne peut pas rester sans rien faire. Et donc nous avons l'obligation, comme éducateurs et comme responsables, l'obligation morale de rendre plus difficile l'accès à ces armes, de vérifier qu'elles ne sont pas portées et surtout de vérifier que les garçons, c'est souvent des garçons qui sont en situation de déséquilibre, on puisse les prendre en charge.
Le Premier ministre en visite au salon Vivatech, François Bayrou, qui s'est également dit confiant quant à la possibilité que les syndicats et le patronat finissent par trouver un accord sur la réforme des retraites. Après 3 mois de négociations, les conclusions du conclave doivent être rendues mardi.
Et cette question, alors que le gouvernement cherche à faire des économies, faut-il restreindre le versement des APL?
Pour financer la réforme des bourses étudiantes, un rapport parlementaire préconise de réserver les aides au logement aux étudiants issus de foyers modestes et de classes moyennes. Alors qu'en pensent les premiers concernés? Louis de Kergorlet est allé leur poser la question.
C'est il y a 19 ans et touche 300 euros d'appel par mois. Insuffisant pour elle qui est obligée d'avoir un petit boulot à côté, mais la situation lui convient.
Un bon montant, ça m'aide beaucoup quand même. C'est vrai que sans ça, ça serait plus compliqué de payer le loyer, etc. Les gens se disent qu'on a de l'argent parce qu'on a quelques appels et tout, mais c'est vrai que dans l'idée, on est obligé de faire des choses à côté si on veut vraiment s'en sortir tranquillement, quoi.
Si l'idée part d'un bon sentiment, c'est pour elle ignorer beaucoup de situations familiales complexes.
Inutile de supprimer, il faudrait plutôt rajouter et ouvrir plus aux gens parce qu'il y a leurs parents qui ont les moyens. Sauf que leurs parents peuvent avoir des moyens, mais ne pas vouloir forcément donner beaucoup à leurs enfants. Enfin, je pense qu'il y a trop de cas particuliers pour supprimer des APL.
Manon ne voit pas non plus l'utilité de la réforme et met en cause la responsabilité de l'État.
Il faut arrêter d'essayer de réduire les aides en général parce que l'État, il a l'argent, juste il le répartit mal.
Une réforme tout aussi impopulaire chez les syndicats étudiants. Lucas Barbagli est délégué national de l'UNI et suggère de plutôt regarder du côté des bourses pour rééquilibrer les comptes de l'État.
On peut très bien s'inscrire pour une année, faire une demande de bourse. On a détecté des fraudes aux bourses, mais ce n'est pas du tout généralisé. Il n'y a aucune volonté politique et même des CROUS de mettre en place ces vérifications.
L'an passé, le coût budgétaire des APL a été chiffré entre 400 et 500 millions d'euros.
Le reportage Sud Radio de Louis de Kergorlé.
Il est le chef d'une organisation que la justice soupçonne d'être derrière les émeutes qui ont éclaté en mai 2024 en Nouvelle-Calédonie. Christian Tain a été libéré par la cour d'appel de Paris.
Il a passé un an en détention provisoire à Mulhouse. Le militant de 57 ans placé sous contrôle judiciaire a interdiction de se rendre en Nouvelle-Calédonie et d'entrer en contact avec d'autres protagonistes du dossier. Mais cette libération est incompréhensible pour Nicolas Metzdorf, le député Renaissance de l'archipel.
La décision pour nous, elle est incompréhensible à la fois sur le fond et puis sur le timing. Après, ce que je dis, moi, c'est que sa libération, c'est pas son innocence, hein, puisqu'il est toujours mis en examen, sous contrôle judiciaire, avec interdiction d'entrer en Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est pas non plus une remise en cause de sa mise en examen. Pour nous, la justice, elle doit continuer à faire son travail, mais c'est sûr que le message envoyé à la veille des négociations n'est pas... Ça crée des tensions ici, puisque les gens comprennent pas pourquoi Christian Théin est libéré. Tous ceux qui ont perdu leur entreprise, leur maison, leurs emplois. On parle pas des victimes de Christian Théin, jamais. Ça va durcir, nous, notre position, les non-indépendantistes. Donc, c'est jamais bon.
Voilà, la cour d'appel qui a également remis en liberté trois autres militants indépendantistes incarcérés dans l'Hexagone.
Dans l'actualité internationale, Clément, de violentes explosions ont été entendues cette nuit à Téhéran.
Israël annonce avoir mené une première série de frappes préventives contre des cibles militaires et nucléaires de l'Iran. Benjamin Netanyahou déclare que l'opération durera autant de jours que nécessaire. L'état d'urgence spécial a été décrété dans tout le territoire d'Israël en prévention d'une riposte. Les États-Unis affirment ne pas être impliqué. Donald Trump convoque ce soir un conseil de sécurité.
L'économie, c'est un mouvement de grève qui touche les magasins partout à travers le monde. Les salariés d'IKEA se mobilisent.
Ils dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail et protestent contre la stagnation de leur salaire en 2025, décidée par la direction. Sébastien M est délégué syndical central force ouvrière d'IKEA.
Il y a un vrai mépris. Ce qui est le plus dur chez IKEA aujourd'hui, c'est les conditions de travail, parce qu'aujourd'hui, vous travaillez presque jusqu'à 6 jours sur 7 par semaine. On est en sous-effectif, on a un turnover monstre. On est ouvert tous les dimanches, les jours fériés, et il faut dire ce qui est. IKEA n'est pas une entreprise en difficulté. Il y a des vraies attentes, et en fait tous les salariés ont fourni un travail tout au long de l'année, et ils méritent d'être récompensés et pas d'avoir un zéro collectif, en fait. Donc on a demandé une augmentation collective de 5% pour l'ensemble des salariés.
Des propos recueillis par François-Louis Bourneau. Une réunion de négociation avec la direction doit avoir lieu mercredi prochain.
Elle a été l'un des symboles des Jeux de Paris 2024. La vasque olympique fait son grand retour.
Elle a repris place au Jardin des Tuileries. Le premier vol est prévu le soir du 21 juin pendant le grand concert de la fête de la musique qui se déroulera à quelques mètres d'ici dans les jardins du Louvre devant 35 000 personnes.
Merci à vous Clément Barguin. On vous retrouve à 6h pour un nouveau journal. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Le Petit Matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise.
Sud Radio, il est à 5h08, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Bah oui, vous êtes bien dans le Petit Matin, on va se réveiller en douceur avec l'actualité, avec les questions du jour aussi qu'on vous pose sur le compte Twitter Sud Radio. Vous réagissez sur le compte Twitter, également sur le Facebook de Sud Radio, avec cette proposition de loi que deux députés vont déposer dans les prochains jours, un député Horizon et une députée socialiste. Ils veulent interdire la vente de smartphones aux moins de 15 ans. Qu'en pensez-vous ? Vous nous le dites sur le compte Twitter de Sud Radio. Pour l'instant, eh bien, vous nous dites à 62% que c'est inapplicable. Vous êtes 22% à trouver que c'est une bonne idée. 16% seulement à dire que c'est une mauvaise idée. Vous continuez de voter, de réagir et puis vous laissez un petit commentaire. J'aurai l'occasion de le lire un peu plus tard dans ce petit matin de Sud Radio. D'ici là, tout de suite, c'est le meilleur des vraies voix avec Philippe David.
Les vraies voix Sud Radio.
Gérald Darmanin évoque des dysfonctionnements après la mort d'Elias en janvier. Le garde des Brisson entend réformer la justice des mineurs. Les deux agresseurs d'Elias avaient pu sévir alors qu'ils étaient identifiés, avaient interdiction de se voir. Alors parlons vrai, est-ce qu'il faut aussi mettre plus les parents devant leurs responsabilités? Et à la question du jour, faut-il réformer dans un sens plus restrictif la justice des mineurs? Vous dites oui à 95%, vous voulez réagir. Le 0826 300 300 avec nous toujours Philippe Bilger, Violette Pilbou, députée EPR du Nord, et Laurence Bague, magistrat et vice-président de l'association du G500 Amour de la Justice. Philippe Bilger.
Je voudrais rapidement réfléchir à trois niveaux sur la justice des mineurs. D'abord, elle connaît des dysfonctionnements parce que les principaux intéressés parfois ne respectent pas les injonctions qui leur sont faites. Deuxième élément, et je l'ai observé moi-même en tant qu'avocat général il y a longtemps, c'est le fait que il y a au sein de l'univers judiciaire parfois une absence de cohérence, de coordination, presque de conscience professionnelle, qui font qu'en réalité la justice des mineurs apparaît défaillante. Et dernier élément, et ça je l'ai vraiment connu et j'en ai souffert, j'ai l'impression, mon cher collègue, que cette justice des mineurs, avant qu'on se penche véritablement sur elle à la suite de tragédies récentes, était plutôt une justice de l'amour. Et qu'au fond, il y avait des juges des enfants qui, par exemple, à la cour d'assises des mineurs, étaient naturellement contre l'avocat général. Donc, j'arrête là. Je crois qu'il est fondamental, en effet, de remettre en chantier cette loi catastrophique de 2021, qu'il faut, en réalité... sur le plan de l'excuse de minorité, il faudrait faire plus qu'y réfléchir. Et il me semble peut-être, et là au risque de choquer, on ne peut plus considérer l'enfance d'aujourd'hui comme celle qui avait justifié l'ordonnance de 1945.
La députée, tiens, Violette Spilbou.
Mais peut-être réagir avec des avancées qui ont eu lieu dans un vote il y a deux mois à l'Assemblée nationale sur la proposition de loi de Gabriel Attal qui a été largement débattue sur la délinquance des mineurs. On a effectivement réformé l'excuse de minorité, c'est-à-dire que maintenant, quand on a plus de 16 ans, eh bien, il n'y a plus d'excuse de minorité, sauf décision du juge dans des cas particuliers d'environnement familial. On a mis en place avec cette loi la comparution immédiate des mineurs pour que lorsqu'il y a un délit, eh bien, il y ait tout de suite une convocation devant le juge et qu'on n'attende pas deux ou trois mois comme c'était le cas.
C'est un contre-pied total de la loi de 2019 avec la césure pénale de Nicole Belloubet.
Oui, c'est sûr. Et puis, il y a aussi le sujet de la responsabilisation des parents défaillants. Je ne parle pas, bien sûr, des familles monoparentales qui sont en grande difficulté avec leur enfant, mais un parent qui ne se rendrait pas aux convocations du juge avec son enfant pourrait encourir une amende. Donc cette proposition de loi, elle a été largement débattue. Il y a toujours ce débat, est-ce que à 16 ans, un mineur de 16 ans récidiviste par exemple qui aura la comparution immédiate est un enfant ou est quelqu'un qui doit être plus responsable de ses actes? Comme vous le disiez, je crois que il y a 45 ans, dans les premières lois, on ne peut pas dire qu'on avait les mêmes mineurs qu'aujourd'hui et que il y a une grande attente des Français, qu'il y ait une fermeté sur les sanctions, mais aussi qu'on ait un travail en amont sur la parentalité, les réseaux sociaux, tout ce qui provoque cette violence et ces jeunes qui sont parfois sans cadre.
Laurent Sebag.
Oui, ben, je vais rebondir sur les propos de la députée Spilbout pour dire que on n'a pas les mêmes mineurs qu'avant et on n'a pas les mêmes juges des enfants qu'avant non plus. J'entends la critique de Philippe Bilger il y a un instant qui dit ces juges des enfants qui vivaient dans le un peu le symbole de l'enfant roi auquel il faut rien dire et qu'il faut jamais sanctionner.
Le principe d'Olto.
Oui, c'est ça. Ça a pu exister, hein, on va pas se mentir, ça a pu exister cette culture-là.
Pas que dans la justice d'ailleurs, hein, D'Olto a été considéré comme un phare de la pensée.
Et c'est pour ça que la justice, c'est pour ça que la justice n'étant pas un système déconnecté du reste du monde politique, à partir du moment où on a vécu les années 70 de l'enfant roi, on a pu connaître une justice qui considère également que l'enfant est roi et c'était sa façon à elle d'aller au bout de cette pensée politique. Les choses ont changé aujourd'hui. Et j'en parle d'autant mieux que je suis conseiller dans une cour d'appel où je juge au quotidien les décisions du juge des enfants, parce que je suis conseiller à la chambre spéciale des mineurs, la cour d'appel d'Aix-en-Provence. On a aujourd'hui des décisions qui sont incroyables de diversité. C'est-à-dire qu'elles utilisent tout le spectre des réponses, aussi bien d'un point de vue pénal que d'un point de vue civil. Et c'est très bien d'ailleurs, parce qu'il faut pas perdre de vue quand même que ce mineur, c'est pas un justiciable comme un autre, jusqu'à preuve du contraire, c'est un sujet en devenir. Donc le juger de la même manière qu'un adulte, ça me paraît être un choix de société qui est critiquable. Je pense qu'il faut continuer à faire confiance à ces nouveaux juges qui ont une façon aujourd'hui d'apprécier avec plus de diversité, de mesures et de nuances les réponses à apporter, sans les déposséder de leur pouvoir d'individualisation des choses. Tout ce système que vous évoquez, cette proposition de loi peut avoir des aspects intéressants sur la responsabilisation parentale. Pour ma part, j'y crois assez. En revanche, sur l'inversion de paradigme qui consiste à rapprocher ce mineur de la justice des majeurs, en revenant sur l'excuse de minorité comme si le mineur était injusticiable comme un autre, me paraît être compliqué. Et en tout cas pas conforme d'abord aux principes et à la société qu'on a choisi, aux conventions internationales qu'on a choisi de signer et de continuer à appliquer, telles que la Convention internationale des droits de l'enfant. On arrive dans un système où on dépossède le juge de ce pouvoir et de ce devoir d'individualisation, et je pense que c'est à ça qu'il faut faire très attention. Surtout à un moment, je tiens à le rappeler, où on a un discrédit qui est jeté sur les décisions de justice par des adultes, qu'ils soient trafiquants de stupéfiants, qu'ils soient personnages politiques condamnés, pour certains qui ont un devoir d'exemplarité. Je trouve assez paradoxal qu'au moment où les adultes ne soient pas en mesure d'écouter la réponse sévère de la justice quand elle l'est, ce soit les enfants qu'on responsabilise davantage.
Le meilleur des vraies voix de Sud Radio avec Philippe David et ses invités. On aura un nouvel extrait tout à l'heure de ces vraies voix aux alentours de 5h50. Les associations sont-elles plus importantes que les partis politiques et les syndicats? On parlera de démocratie participative tout à l'heure. Mais d'ici là, dans un instant, c'est Valérie Expert et Gilles Gansman, le meilleur de Sud Radio Média.
Sud Radio Rodez 104.4 Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio.
Bonjour, c'est Philippe David. Les vraies voix de Sud Radio vous donnent rendez-vous en direct du Game Fair à La Motte-Beuvron, dans le Loir-et-Cher, le plus grand salon de la chasse et de la nature en France. Retrouvez-nous sur le stand de la Fédération Nationale des Chasseurs. A tout à l'heure.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Le Petit Matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise.
5h17 dans le Petit Matin de Sud Radio, avant de retrouver Valérie Expert et Gilles Gansman, le rappel des titres tout de suite. Israël annonce avoir mené une première série de frappes préventives contre des cibles militaires et nucléaires de l'Iran. L'État hébreu décrète l'état d'urgence, craignant des représailles immédiates. Les États-Unis affirment ne pas être impliqués. Le bilan continue de s'alourdir. Au moins 265 personnes sont décédées après le crash d'un Boeing 787 de la compagnie Air India, destination de Londres. Il n'y a qu'un survivant connu parmi les 242 personnes qui se trouvaient à bord. Le collégien de 14 ans qui a poignardé à mort une surveillante de son établissement à Nogent, mise en examen pour meurtre, placée en détention provisoire. La famille de Mélanie organise une marche blanche en fin de journée. Et puis un demi-million d'élèves de première générale et technologique passent ce matin l'épreuve anticipée du bac de français. Lundi, ce sera au tour des élèves de terminale de plancher, cette fois-ci sur l'épreuve de philosophie. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Tout de suite, le meilleur de Sud Radio Média.
Sud Radio Média, l'invité du jour.
C'est Stéphanie Pilonka, vous êtes réalisatrice, on vous a déjà reçu ici dans cette émission, vous traitez
des sujets graves et forts.
Cette fois-ci, je vous conseille vraiment, je vous conseille vraiment de regarder Paris Première. C'est en clair, samedi à 21h, il y aura évidemment le replay. Invincible été, c'est un documentaire qui est consacré à Olivier Goua, qui est atteint de la maladie de Charcot. Une maladie qui touche 1500 personnes par an, donc c'est une maladie qui ne touche pas tant de monde que ça, on peut le dire, on peut le résumer parce que c'est une maladie qui fait extrêmement peur, mais on en parle beaucoup plus. Il y a des auditeurs qui me disent oui, mais avant on n'en parlait pas. On en parle beaucoup plus et par la voix d'Olivier Goua en particulier. Il y a eu le Bucket Challenge aussi. Donc pourquoi déjà cette maladie est plus médiatisée, si j'emploie ce terme ?
Alors c'est la moins rare des maladies rares.
Pourquoi on entend de plus en plus dans les médias des voix de malades qui s'élèvent à travers Olivier et à côté d'Olivier, d'associations qui se mobilisent, etc. Parce que c'est une maladie où l'espérance de vie est malheureusement très courte. Mmh. Donc les chercheurs, les laboratoires, les financiers, ceux qui financent la recherche, les mécènes, etc. ne se mobilisent pas vraiment puisque elle est pas, y a pas trop de profit puisque les malades ont une espérance de vie courte. Donc ouais. C'est la raison pour laquelle
on dit
Olivier,
3 ans, c'est ça ?
Voilà, Olivier Gouas s'est mobilisé pour engranger, pour solliciter de l'aide à travers ce film, à travers des expositions de photos, à travers des événements très particuliers où il demande aux puissants et aux nantis de ce monde d'aider la recherche suffisamment.
Actuellement, ouais. Ça a évolué où personne ne fait des recherches sur la maladie de Charcot en se disant très cyniquement, dans 3 ans, ils sont morts.
Oui, c'est ça. Alors, grâce à Olivier et à cette façon extraordinaire qu'il a eue de porter la parole des malades, des personnes atteintes de cette maladie-là, il se passe des choses. Voilà, il y a, avec l'Institut du cerveau, etc., Olivier a réussi à glaner un certain nombre de fonds pour qu'on puisse s'appliquer à développer dans d'excellentes conditions la recherche.
Ça veut dire que
puisqu'à travers ça, il y a d'autres maladies.
La recherche d'Alzheimer, ça rapporte plus que la recherche sur Charcot,
c'est déjà une recherche compliquée aussi, la recherche. Oui. Alzheimer, il faut... Moi, je vais tous les ans au gala, justement, où ils expliquent, professeur Dubois explique que c'est difficile. Hein, pendant bien très sûr. Longtemps, ça a été une maladie qui a été aussi mise un petit peu de côté en matière de recherche. Comment il a accepté ? C'est lui qui voulait faire ce documentaire, Olivier Gouas ?
Oui.
Parce que c'est pas évident, vous allez vraiment au cœur. Alors c'est tout en pudeur, c'est tout en subtilité, il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de voix off, ce sont
ce
sont des moments de vie.
Oui, tout
à fait. Comment lui vous a exprimé sa volonté de participer, de faire ce documentaire? C'était quoi sa motivation?
Alors c'était une vraie envie, un vrai désir d'Olivier de raconter, de témoigner. Bien souvent chez les malades, il y a ce désir de partager, de témoigner, parce qu'on dit que la maladie vous transfigure, on dit que la maladie vous change votre optique, votre perception, vos sentiments, votre ressenti de la vie, et il avait envie de témoigner pour rassurer, pour libérer la parole, parce que bien souvent quand on est malade, on souffre dans son corps, on ne veut pas le dire parce qu'on a peur d'être licencié, d'être jugé, d'être mis au banc de notre société, d'être regardé avec une espèce de quelque chose de larmoyant, quelque chose de souffreteux, avec une empathie pas au bon endroit. Il avait envie de dire je suis vivant, mais je suis malade, mais je vis et je suis là. Voilà, c'était ce désir-là.
Même si c'est pas facile non plus
évidemment,
au quotidien.
Personne ne dit que c'est facile, mais il avait cette envie de témoigner et c'est un grand souffle de vie, je crois. Donc il a ouvert les portes de son quotidien.
Et il en parle comme un coming out.
Oui.
Moi, je vous propose d'écouter la bande-annonce. Mmh. Et la bande-annonce, vous allez entendre la voix d'Olivier Gouas, de son entourage, et vous allez avoir une petite idée pour nos auditeurs de ce qu'est ce film que vous verrez sur Paris Première. Écoutez la bande-annonce.
Bonsoir Olivier Gouas.
Bonsoir Jean.
Combien ça rapporte de prêter de l'argent à des PME ?
C'est vous qui choisissez en fait le risque que vous êtes prêt à prendre, puisque vous choisissez les entreprises auxquelles vous prêtez.
Parler, je faisais un peu mieux que la moyenne. Et là, quand j'écoute ça, c'est...
De 4 à 9%.
Mais merde, j'ai quand même perdu. 1500 cas par an en France. On n'en connaît pas les causes. L'espérance de vie moyenne, c'est 3 ans.
On sait tous qu'on va mourir. Mais à partir du moment où les gens savent de quoi, à peu près quand, la vie n'est plus du tout la même. Il y a comme tout à coup un condensé de vie qui nous est donné. Et c'est votre cas pour dire comment je fais pour que ma vie soit plus grande que la vie.
Je me considère comme en mission. Ma mission, c'est de l'aider.
Se transformer soi-même pour mieux se mettre au service des autres.
Il se bat aussi pour tous ceux qui ont la SLA, mais surtout ceux qui l'auront plus tard, parce que tout ce qu'il fait pour la recherche, on n'en verra les résultats que dans 5-10 ans.
Réfléchir, être dans l'action, aimer, vous faites avec votre cerveau.
Ouais, c'est très fort. Et encore une fois, je le dis, c'est pas larmoyant, c'est je sais pas comment encourager les gens à le regarder parce que c'est une leçon de vie. Alors le mot leçon, je le mets entre guillemets parce que quand on le regarde, on se dit est-ce que moi j'aurais la force d'être comme lui, mais ça donne de l'espoir aussi. Peut-être c'est ce qu'il a voulu faire passer, hein, parler de la mort, l'acceptation de la mort. On en parle beaucoup dans ce documentaire.
Oui, c'est aller au-delà de ce qui nous est imposé. C'est important. C'est pour ça, c'est pas forcément un film sur la mort, non, sur la pénibilité ou la difficulté. C'est comment peut-on, ouais, lorsque soudainement on est impacté dans notre vie, être plus grand que la vie, être plus grand que ce qui nous est imposé, dépasser l'entrave pour vivre malgré tout. Je pense que il est bien naïf celui qui croit que l'existence va pouvoir être traversée sans encombre. Ouais.
Le Petit Matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise.
Sud Radio, il est à 5h24, le meilleur de Sud Radio Média, à l'instant avec Valérie Expert et Gilles Gonzman, que vous retrouverez tout à l'heure en direct sur Sud Radio à partir de 10h au menu. Aujourd'hui, eh bien, on reviendra sur ce numéro de Femmes Actuelles qui va sortir ce samedi sur l'infertilité. Le gouvernement qui mise sur la sensibilisation et un accès facilité à la conservation ovocytaire. Interview exclusive, notamment dans ce magazine Elle de Catherine Vautrin. Vous saurez tout donc tout à l'heure à partir de 10h. Pour l'heure, nous sommes aujourd'hui le vendredi 13 juin. Et oui, vendredi 13. Alors attention si vous êtes superstitieux. Pour certains, c'est un jour de chance. Pour d'autres, c'est une véritable malédiction. Écoutez, voilà comment on en parlait à la télé il y a 30-40 ans.
En ce temps-là, ils étaient 13 à table. Et le Christ mourut le lendemain, un vendredi. Quant à Louis XVI, il avait bien offert 13 pièces d'or à Marie-Antoinette pour son mariage, mais leur bonheur a été tranché net en 1793. C'est en 1961 que la Loterie Nationale a institué la tranche spéciale du vendredi 13. Le nombre des joueurs double carrément ce jour-là, ainsi que les bénéfices de la loterie qui porte son gros lot de 4 millions à 5 millions.
Est-ce qu'il y a des anecdotes spéciales au niveau des joueurs?
Oui, sur Paris par exemple, vous avez beaucoup de gens qui choisissent d'aller prendre leur billet le vendredi 13 bien sûr, dans le 13e arrondissement, à 13h.
Ah bah il y en a qui sont tatillons, effectivement. En tout cas, c'est vrai que c'est surtout un jackpot pour la Française des Jeux ce jour-là. Allez, on passe aux anniversaires du jour. Les personnalités qui sont nées un 13 juin. Un footballeur, Kingsley Coman, qui fête ses 29 ans. Une écrivaine, Virginie Despentes, 56 ans. Un ancien secrétaire général de l'ONU également, Ban Ki-moon, qui a 81 ans. Et puis anniversaire aussi du comédien qui incarnait Tanguy au cinéma, Éric Berger, 56 ans ce vendredi.
Je t'aime, maman.
Moi aussi, je t'aime.
Et je t'aime, papa.
Moi aussi, mon poulet.
Promis.
Bon, il a bien grandi en tout cas, Tanguy alias Éric Berger, qui était génial dans ce film aux côtés d'André Dussolier, vous l'avez entendu, et de Sabine Azéma. Allez, on termine en musique avec sans doute le DJ français le plus tendance du moment, DJ Snake, qui fête ses 39 ans aujourd'hui. Il y a quelques jours, c'est lui qui avait été choisi pour accueillir au Parc des Princes le retour des joueurs du PSG après leur victoire en Ligue des Champions avec ce morceau. Attention, ça réveille. Ah oui, c'est vendredi, ambiance boîte de nuit. En tout cas, je vous avais prévenu, effectivement, ça réveille. PSG Boys Freestyle, c'est le titre de ce morceau sorti pour la victoire du PSG en Ligue des Champions en collaboration avec le rappeur Niska, lui aussi très tendance en ce moment. Bon, DJ Snake, c'est aussi ça. Voilà, je vous emmène en discothèque avec John au platine à la réalisation de cette émission. En tout cas, voilà pour DJ Snake qui fête donc ses 39 ans aujourd'hui.
Sud Radio à Dijon en DAB+.
Sud Radio. Sud Radio célèbre la fête des pères avec le vent à la française.com. Cette semaine, écoutez Sud Radio toute la journée pour tenter de gagner un bracelet élégant et personnalisé. Un bijou unique pour un père qui l'est tout autant. Sud Radio et le vent à la française.com, un vent de caractère et d'affection pour tous les papas.
Sud Radio, parlons vrai. La météo Sud Radio.
Allez, la météo, c'est avec vous, Rémi André. Vous l'avez peut-être constaté, hein, chez vous, il fait déjà chaud ce matin. Et attention aux orages quand même cet après-midi, hein, Rémi. Bonjour.
Bonjour à toutes, bonjour à toutes. Eh bien, c'est une belle journée qui se prépare, au moins une belle matinée, dirons-nous, car les températures, évidemment, sont déjà très douces. Le soleil va briller sur la plupart de nos régions, excepté quelques nuages résiduels encore par-ci par-là, notamment entre l'Auvergne et les Hauts-de-France. Mais ensuite, eh bien, la chaleur sera là dès le début d'après-midi. Une chaleur assez marquée, avec des températures qui vont dépasser largement les 30 degrés. Sur la façade est du pays, nous pourrions atteindre à nouveau les 32 à 36 degrés. Une chaleur qui, elle, va se confronter à de l'air plus humide qui nous arrive de l'océan. Et donc, dans l'après-midi, des averses et des orages vont se déclarer entre la Bretagne et l'Aquitaine. Des averses et des orages qui vont gagner ensuite vers la Normandie, la Picardie, le bassin parisien dans la soirée. Et attention, là, dans ce secteur, les orages pourraient être forts.
Merci à vous, Rémi André. Et oui, c'est vendredi 13. Excellent réveil à tous. Il est 5h30 sur Sud Radio.
Parlons vrai.
Dans un instant, la revue de presse avec, comme toujours, eh bien Maxime Trouleau. Mais d'abord, on fait un point sur l'info, sur les infos avec vous, Elsa Ruot. Bonjour.
Bonjour, bonjour à toutes et tous. Le collégien de 14 ans qui a tué une surveillante est mis en examen pour meurtre sur une personne chargée d'une mission de service public. Annonce du parquet de Dijon, deux jours après les faits. Le suspect avait poignardé cette femme de 31 ans devant son établissement à Nogent. Il a été placé en détention provisoire. Le Conseil constitutionnel valide quasiment toute la loi contre le narcotrafic, mais censure 6 articles. Les sages avaient été saisis par des députés de gauche. Ils ont notamment jugé conforme à la Constitution le régime de carcéral d'isolement qui serait mis en place pour les détenus les plus dangereux, avec une seule réserve sur les fouilles intégrales. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, salue sur le réseau X une grande avancée pour la sécurité des Français. L'actualité, c'est aussi les recherches qui continuent en Inde après ce crash d'un avion à Ahmedabad. L'enquête est en cours et les autorités ont évoqué un seul survivant. Il y aurait donc 241 victimes qui se trouvaient à bord de l'appareil et une vingtaine de personnes tuées au sol. Le Boeing s'est écrasé dans une zone résidentielle peu de temps après son décollage. Concernant l'unique rescapé, un Britannique de 40 ans, il aurait déclaré à son frère « Je n'ai aucune idée de la façon dont je me suis sorti de cet avion ». Un sénateur plaqué au sol et menotté, c'est l'image de la nuit aux États-Unis. Alex Padilla, élu démocrate de Californie, a été exclu par des agents fédéraux d'une conférence de presse de la ministre de la Sécurité intérieure de Donald Trump. Il tentait de l'interrompre alors qu'elle évoquait les manifestations à Los Angeles contre la répression de l'immigration. Le camp démocrate dénonce avec force cet incident et réclame une enquête. Enfin, une statue pour Aya Nakamura. L'artiste a désormais son double de cire au musée Grévin. Elle l'a elle-même dévoilée dans la soirée, déclarant « Je n'aurais jamais pensé être inspirante en étant moi-même ». La statue de la chanteuse sera à découvrir dès ce vendredi pour les visiteurs du musée parisien. C'est la fin de ce flash. Bon début de journée.
Merci beaucoup Elsa Ruot.
Le Petit Matin Sud Radio, 5h-7h. Benjamin Glaise.
Il est 5h32 à cette heure-là, il est toujours là. Maxime Trouleau, bonjour Maxime.
Bonjour Benjamin, bonjour à tous.
Pour votre revue de presse, oui. Et cette question, est-ce que vous êtes superstitieux Maxime?
Pas trop non, pas vraiment pas même. Ouais. Et vous?
Bah non, ça tombe mal parce qu'on est vendredi 13. Non, moi non plus.
Non, pas trop.
Ouais. Bah pas de sujet, on passe à la suite. et en tout cas, les Français eux sont de plus plus superstitieux, c'est ce que nous dit le Parisien aujourd'hui en France.
Alors que chaque vendredi 13, la FDJ, la Française des Jeux, enregistre 2 à 3 fois plus de mises de la part des Français. Effectivement, Benjamin, selon une étude de CSA réalisée pour la FDJ, eh bien 41% des sondés se disent superstitieux. C'est quand même près d'un Français sur deux. C'est surtout...
Alors attendez, je demande au réalisateur John, superstitieux ou pas ?
Même pas le dernier vraiment.
Non. Alors on n'est pas représentatif.
Non, pas vraiment. Ça fait 0 sur 3 là. Et c'est pourtant donc 41% des sondés, c'est 7 points de plus qu'en 2022. Ils sont majoritairement jeunes, hein, 57% ont moins de 35 ans. Ce sont des femmes surtout, 46% à le déclarer, contre 34% des hommes. Même les plus superstitieux d'ailleurs ignorent sur quoi reposent leurs croyances, nous dit le Parisien aujourd'hui en France. Vendredi 13, tiens, est-il vraiment un jour de chance? Parce qu'on se pose la question aussi quand même dans dans l'Union, alors que ce jour ravive l'espoir chez les joueurs. Ce seul vendredi 13 de l'année entraîne un engouement chez les buralistes, nous dit le journal, alors qu'on les retrouve, ces buralistes, en une de l'Ardennais. Faut-il tenter sa chance ce vendredi 13? C'est peut-être votre cas, chers auditeurs. N'hésitez pas à nous le dire, d'ailleurs.
Eh ben oui, sur le compte Twitter de Sud Radio, sur le Facebook de Sud Radio également, bien sûr. Allez, ben, vendredi 13 juin, nous sommes, ça veut dire, à une semaine, pratiquement, du début de l'été. Et ce constat d'ores et déjà, bah oui, c'est déjà l'été, c'est ce que nous dit Nice et Vermatin.
Exactement, la chaleur s'est installée ces derniers jours et le thermomètre devrait continuer à s'emballer ce week-end pour atteindre jusqu'à 38 degrés dans certains secteurs varois. Effectivement, les températures annoncées affolent les compteurs, peut-on lire dans le journal. En cause, une dépression au large du Portugal qui a fait remonter une masse d'air chaud venue du Maghreb directement vers le sud de la France. Selon les prévisions, effectivement, les températures devraient atteindre leur paroxysme ce week-end dans l'arrière-pays varois, où le mercure montera jusqu'à 38 degrés au Luc ou encore à Draguignan. Si le littoral doit être un peu plus épargné, on attendra tout de même 32 degrés du côté de Toulon notamment. Il faudra être attentif à la mise en place d'une éventuelle vigilance canicule. Peut-on lire dans Varmatin, les températures devraient...
Hydratez-vous.
Exactement, les températures devraient redescendre tout de même à partir de lundi, tout en restant néanmoins supérieures de 1 à 3 degrés au normal de saison. Et conséquence, eh bien attention aux feux de forêt. Et oui, malheureusement, c'est l'une des conséquences de ces fortes chaleurs. L'Aveyron, non loin de là, se prépare à affronter effectivement ces feux de forêt, nous dit Centre Presse ce matin.
Allez, dans l'actualité également, Maxime, beaucoup le craignaient, le gouvernement réfléchit à augmenter les impôts. La tentation gagne le gouvernement, c'est ce que nous indique le Figaro Écho.
Et oui, les ministres de Bercy et les premiers ministres, le premier ministre lui-même, n'ont eu de cesse de le répéter, que cet effort serait fourni sans augmentation d'impôts. Oui.
Oui, c'est ce que j'avais compris.
Oui, sauf que l'échéance approche. Eh bien, cet engagement semble comporter de plus en plus d'astérix. Effectivement, en réalité, le gouvernement prévoit, depuis le début de l'année, de créer un nouvel impôt. Alors, ça restera quand même, et ça concernera d'abord les plus riches, les plus aisés, notamment avec cette contribution différentielle sur les hauts revenus, cette CDHR. Elle existe déjà, elle consiste en un impôt plancher, un minimum fixé à 20% des revenus sur les 65 000 ménages les plus aisés. Eh bien, cette CDHR serait remplacée l'an prochain par un dispositif anti-optimisation qui prendrait en compte alors un prix plancher, un impôt plancher sur les patrimoines, sur le patrimoine cette fois-ci, nous détaille le Figaro Écho. La rengaine de la solution consistant à taxer les riches semble être en tout cas entrée dans les têtes, nous dit le Figaro Écho.
Ça c'est le Figaro Écho du côté du Figaro tout court. On parle du conflit entre Israël et le Hamas. C'est le journal qui se pose cette question, que reste-t-il du Hamas?
Oui, et le Hamas qui reste une organisation forte, de nombreux combattants jeunes mais inexpérimentés, nous dit le Figaro. Effectivement, il ne reste en fonction que quelques dizaines de hauts gradés, confie une source diplomatique française. Ces rangs sont composés de recrues très récentes. Un officier du Hamas n'a par exemple que 19 ans en moyenne. Un Palestinien de Gaza qui connaît bien la mouvance islamiste confirme d'ailleurs dans le Figaro que la majorité des hauts gradés et presque tous les commandants des régions sont morts. Le Hamas a été affaibli par la liquidation mi-mai de son chef, Mohamed Sinwar, le frère de Yahya Sinwar, architecte de l'attaque terroriste du 7 octobre 2023. En revanche, nuance le journal, ses membres sont encore nombreux. Et pour cause, ils étaient 105 000 inscrits aux dernières élections internes de Gaza en 2021, dont 25 000 à 30 000 militaires. 20 mois après, il en reste une majorité, sachant que 20 000 combattants environ ont été tués et que le Hamas les a remplacés en recrutant souvent de jeunes orphelins de la guerre à partir du milieu de l'année dernière.
Et puis un petit mot à nos questions du jour sur le compte Twitter Sud Radio, notamment on vous fait réagir à cette proposition de loi que deux députés, un député Horizon et une députée socialiste, vont déposer dans les prochains jours. Ils proposent d'interdire la vente de smartphones aux moins de 15 ans. Alors qu'en pensez-vous? Pour l'instant, vous nous dites très largement en tête que c'est inapplicable. applicable à 68%. Et puis on a ce commentaire d'une maman qui nous dit « Nous sommes les parents et j'achèterai un portable à ma fille. Voilà. » Point barre. Mmh. Voilà. Merci beaucoup Maxime Troulot. Sud Radio, il est 5h38. Tout de suite, le meilleur de la vérité en face avec Jean-François Aquili, qui parlait hier des chasseurs qui s'estiment malmenés. Il recevait le premier des chasseurs en France, Willy Schrenn.
Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Aquili.
Bonjour à vous, Willy Schrenn, président de la Fédération Nationale des Chasseurs. Willy Schrenn, j'explique pourquoi vous êtes là aujourd'hui, parce que demain démarre le Game Fair 2025. Oui. C'est un nom anglo-saxon, ça. Hein,
c'est un nom anglo-saxon, mais la chasse a des racines anglo-saxonnes.
Ah, bah bien répondu. Qui ouvre ses portes donc à la mode Beuvron, en Sologne. Hein, oui. C'est jusqu'à dimanche. Mm-hmm. C'est quoi? C'est une rave party?
Oui, c'est plutôt une nature party.
Une vraie party.
Hein, pas avec des artifices. Ouais. Au contraire, c'est une espèce de balade à faire dans le monde rural où il y a la chasse, la pêche et toutes les activités qui peuvent être liées à la nature, mais qui sont faites par des êtres humains. Voilà, on n'est pas dans la contemplation, on est dans l'action.
Vous attendez à combien de visiteurs sur une telle manifestation, Willy Schrenn?
Un peu plus de
100 000. Willy Schrenn, vous avez vu l'ambiance dans le pays en ce moment?
Ouais, j'ai vu, oui.
Vous en pensez quoi, vous?
Je pense que la colère, on est passé par la colère et l'inquiétude, on est un peu dans la résignation maintenant, comme beaucoup de Français. On voit bien que la jeunesse a plein de problèmes, on voit bien que la vieillesse a plein de problèmes, on voit que l'économie a plein de problèmes, le social... On est dans une société aujourd'hui qui est plutôt violente, impatiente, désabusée. Enfin, il y a tellement de choses qui s'additionnent que je fais partie de ces gens où on finit par se demander comment ça va finir, quoi. Parce que les solutions sont difficiles à trouver, mais l'inquiétude est là.
Vous savez que c'est le procès hein, qui est fait aux chasseurs depuis quelques décennies maintenant. Vous êtes sur un modèle ancien, vous nuisez aux espèces, vous êtes des individus dangereux qui circulaient avec des fusils en pleine nature, là où les gens se baladent. Mais la société aujourd'hui, est-ce qu'elle n'est pas ultra-violente? Comment est-ce que vous vous situez là-dedans, vous, Willy Schrenn?
En fin de compte, on fait plutôt partie des moins violents. Parce que dans le fond, tous les chasseurs sont armés. Est-ce que vous avez vu un jour un problème, un chasseur qui aurait, on va dire, pété un câble, tiré sur tout ce qui bouge? Ça n'arrive pas. On est quand même des gens formés à ça. On est plutôt des gens heureux, dans un monde qui est triste. Hein. Et je crois que ça agace nos opposants, d'ailleurs. On est heureux. Quand on est à la chasse, on est heureux. C'est encore un des derniers liens qu'on a dans les campagnes. C'est souvent la dernière association du village. C'est transgénérationnel. Voilà, c'est transsocial, transfinancier. Vous avez des gens de toutes sortes d'horizons. Il n'y a plus beaucoup d'endroits, monsieur Aquili, où on peut mettre des gens autour d'une passion. Parce que même le football, tout ça, vous le vivez seul dans un stade. Là, c'est collectif. Donc, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on est heureux de se rencontrer, où il y a encore des valeurs. Il y a encore de la transmission, il y a de la tradition. On a besoin de ces socles-là en ce moment.
Vous y croyez, vous, à ce combat que vous menez? Parce que vous publiez un manifeste aujourd'hui. C'est un moment important pour vous, ce manifeste. On va dire ce qu'il y a dedans, en substance. Hein. Grosso modo, moi, j'ai relevé, vous m'arrêtez si je suis incomplet ou si je tape à côté, mais vous avez une onze propositions?
Oui, 11 propositions. C'est un manifeste, ce qu'il dit, on est dans quelque chose de dur, de brutal. C'est plus un cri de colère.
Vous voulez qu'on reconnaisse l'intérêt général de la chasse? Il y a cette demande d'inscription au patrimoine de l'UNESCO, immatériel. Bon, ça n'a pas de chance d'aboutir, ça.
Ah, non, au contraire, ça aurait une logique d'aboutir.
Oui, ça aurait d'ailleurs une logique, mais bon.
En d'autres temps, il n'y a pas si longtemps que ça, certaines chasses sont passées au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Je pense par exemple à la chasse au vol, les rapaces, on chasse avec un rapace. Bon, tout ça s'est arrêté quand l'écologie politique et punitive est arrivée sur la scène publique, où on expliquait qu'on était tous des voyous, des méchants, des dangereux, et qu'il fallait se débarrasser de gens comme nous. Mais c'est un tort, je le redis, pour ce que je vous expliquais après. Et puis d'un côté pratique, et dans la biodiversité, combien de réserves aujourd'hui, combien d'endroits où on exclut la chasse, que ce soit en France ou ailleurs, hein, les Suisses ont été les premiers avec le canton de Genève à le faire, et au final on fait quoi? Ben, il se passe 3-4 ans, on demande de revenir. Donc c'est qu'il y a
Parce que
on ne peut pas, la nature qui nous entoure, tout au moins en Europe, c'est quelque chose qui a été façonné par la main de l'homme depuis des milliers d'années. Mmh. Donc imaginez qu'on va enlever l'espèce humaine des territoires, parce que c'est ça la grande idéologie, je dirais, de l'écologie aujourd'hui dogmatique, de dire on enlève l'espèce humaine et tout ira bien. Ça n'est pas vrai, vous enlevez l'espèce humaine. L'homme a une fonction aujourd'hui de régulation et de maintien des écosystèmes. Alors il peut les dérégler dans d'autres domaines, mais dans celui-là, à un moment, quand vous avez trop de cormorants, bah, vous n'avez plus de poissons, à un moment, voilà, quand vous avez trop de loups, bah, vous avez avait plus de chevreuil. Voilà, il y a un moment, il faut équilibrer tout ça. Et c'est à l'homme de le faire.
Vous êtes un peu agacé, hein. Vous en voulez à Bruxelles. L'Europe.
Mais oui, mais j'en veux à Bruxelles.
C'est pas un peu facile, ça, de taper
mais
la.
C'est parce que c'est la réalité.
Bureaucratie européenne.
Mais d'abord, je le dis souvent, je vais le redire maintenant. Le pire, ce qu'on a aujourd'hui, vous avez tellement de gens là-bas qui sont payés à avoir des idées. Et une idée, c'est une norme. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un mec qui s'emmerde devant son ordinateur et que pour justifier son salaire, il doit trouver une idée. Cette idée, c'est une norme. Alors, il y en a pour la chasse, il y en a pour l'économie, il y en a pour le social, il y en a dans tout. Je pense qu'à un moment, il faut dénormer tout ça et faire respirer. On a dit, on va calmer. Ça fait 5-6 ans, on arrête les normes. Il y en a quand même eu 35 000 en 5 ans, des nouvelles.
À la chasse aux normes, en quelque sorte.
Oui. On va le dire comme ça, si vous voulez, à la chasse. Non, mais je veux surtout qu'on aille à la chasse à la liberté. Vous n'avez pas l'impression, monsieur Akili, que dans tous les domaines, c'est le plus gros problème aujourd'hui, c'est la liberté? Qu'est-ce que j'ai comme liberté quand je vais à la chasse? Qu'est-ce que j'ai comme liberté quand je vais dans la nature? Qu'est-ce que je fais comme liberté quand je choisis mes habits, quand je choisis ma voiture? On est à peu près emmerdé surtout, y compris dans la chasse, mais dans tout le reste. La liberté. Les gens étouffent et manquent de liberté.
Et ben voilà, c'est Cash, Willy Schrein, qui était l'invité de La Vérité en Face de Jean-François Akili. Hier matin, Jean-François Akili, que vous retrouverez tout à l'heure à partir de 9h pour le débat entre Mehdi Reich et Eric Tegner. On parlera, on reviendra notamment sur le drame de nos gens. Rima Hassan qui a fait son retour en France hier soir et puis on parlera également du dossier retraite. Beaucoup de choses à dire. 5h44 dans un instant après le rappel des titres, les vraies voix de Sud Radio.
Dans un instant, le petit matin Sud Radio avec Benjamin Glaise est de retour.
De prime abord, personne ne déprime à l'idée de recevoir une prime. En prime, une prime, c'est une bonne nouvelle.
En ce moment, chez Nissan, la très bonne nouvelle, c'est la prime à l'hybride jusqu'à 7000 euros. Oui, 7000 euros. Pendant les jours hybrides Nissan, ne manquez pas cette prime exceptionnelle sur tous les crossovers hybrides Nissan Juke, Qashqai et X-Trail. Rendez-vous vite en concession Nissan pour en profiter.
Nissan.
Remis jusqu'à 4000 euros sur Juke Hybrid, 5000 euros sur Qashqai et 7000 euros sur X-Trail 9, identifié en stock jusqu'au 30 juin par rapport au prix au 1er mars. Détail Nissan.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Sud Radio Tulle.
95.4.
Sud Radio. Le petit matin Sud Radio. 5h-7h. Benjamin Glaise.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Sud Radio. Il est 6h moins le quart, le rappel des titres. Et tout d'abord, Israël qui annonce avoir mené une première série de frappes préventives contre des cibles militaires et nucléaires de l'Iran. Les États-Unis affirment ne pas être impliqués. Le bilan continue de s'alourdir. Au moins 265 personnes sont mortes après le crash d'un Boeing 787 de la compagnie Air India. Il n'y a qu'un survivant connu parmi les 242 personnes qui se trouvaient à son bord. Le collégien de 14 ans qui a poignardé à mort une surveillante de son établissement à Nogent, mise en examen pour meurtre et placée en détention provisoire. La famille de cette surveillante, Mélanie, organise une marche blanche en fin de journée. Et puis un demi-million d'élèves de première générale, les technologiques planchent ce matin sur l'épreuve anticipée du bac français. Lundi, ce sera au tour des élèves de terminale de plancher sur l'épreuve de philosophie. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Tout de suite, Philippe David, c'est le meilleur des vraies voix de Sud Radio.
Les vraies voix Sud Radio.
Notre pays compte 1,3 million d'associations actives selon les estimations, dont celle du G500 avec qui nous sommes alliés. Alors parlons vrai, est-ce que les associations sont prises à leur juste valeur par les pouvoirs publics? Et à cette question, les associations sont-elles plus importantes que les partis politiques et les syndicats? Vous dites-vous à 53%, vous voulez réagir? Le 0826-300-300 avec nous. Pierrick Courillot, président de Handicap République et Société élu local à Orsay. Bonsoir.
Bonsoir Philippe Nevin.
Et avec nous, Abiba Mejri-Sheikh, ancienne directrice de la communication de l'Union africaine et vice-présidente de l'association Idialogos. Bonsoir.
Bonsoir.
Allez, Philippe Bilger, vous trouvez que les associations sont très importantes aujourd'hui par rapport aux partis, aux syndicats?
Pour une raison très simple, à mon avis, à partir du moment où on élimine de notre réflexion les associations discutables et dévoyées, qui ont des finalités politiques et sectaires. Les autres sont fondamentales parce qu'elles permettent de servir le bien commun. Personne ne peut dire que vos associations sont de droite ou de gauche, puisque vous vous contentez, c'est capital, de favoriser un meilleur bien humain. Et c'est pour ça que les associations sont des structures qui aujourd'hui ont beaucoup de succès.
On va commencer de l'honneur aux dames. Abiba Mejri-Sheikh, oui. Des deux côtés de la Méditerranée, quand vous êtes tunisienne, les associations ont un rôle important?
Absolument, absolument. On ne conçoit plus maintenant des sociétés sans association. C'est un travail nécessaire, ça donne l'occasion à la société civile de dire son mot, de participer. On ne peut pas concevoir nos sociétés aujourd'hui sans que les citoyens organisés dans des associations, mais comme disait monsieur, Bichère, des associations crédibles, des associations qui travaillent pour le bien de l'humanité, d'agir et d'être là.
Pierrick Courillot, vous êtes président de Handicap République et Société, élu local à Orsay. Quand on est élu local, est-ce qu'on a un attrait plus spécifique pour les associations ou pas? Parce que c'est quand même un réservoir de voix, qu'on le veuille ou non.
je ne le sais pas, mais ce qui est certain, en revanche, c'est qu'aujourd'hui, dans le paysage politique qui est le nôtre, les associations ont toute leur place pour remonter les problématiques du terrain, produire des idées nouvelles et remettre de la cohésion au cœur du pays. Et donc, on l'a vu dans le champ du handicap, qui est celui sur lequel nous sommes engagés, les associations ont toujours été fer de lance de l'avancée des droits fondamentaux en faveur de nos concitoyens en situation de handicap.
Philippe Bilger.
Vous trouvez que en général, le régime des associations en France est satisfaisant? On peut en créer facilement, elles peuvent fonctionner librement. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui,
Pierrick Courillot.
Je crois que effectivement, elles peuvent fonctionner. La difficulté post-Covid, c'est plutôt d'arriver à faire émerger de nouvelles forces vives, à mobiliser dans différents territoires et arriver à obtenir une cartographie des attentes assez large. Et en ce sens, le sommet citoyen qui nous réunit à partir d'aujourd'hui permet de fédérer ces énergies.
Habiba Mejri-Cheikh.
À mon sens, toutes les associations ne se valent pas. Et je pense que il faut pas qu'elle soit parce que moi je parle un peu d'une expérience où il y a des associations mais qui sous couvert d'associatifs elles peuvent servir d'autres enjeux, d'autres ça.
Parfois c'est des paravents.
Absolument, c'est des paravents, exactement, des vitrines pour autre chose. Et ça, c'est il faut vraiment, ça porte atteinte déjà au travail associatif et c'est ça doit être répréhensible par la loi. Mais est-ce que la loi va jusque là? Parce que là, le système de contrôle de financement, par exemple,
oui,
de mon expérience, c'est le système de financement d'où vient l'argent, à quoi sert l'argent?
Bien sûr.
Parce que là aussi, ça peut donner lieu à des affaires de corruption,
voire de blanchiment parfois.
De blanchiment parfois, effectivement, qu'il faut savoir pouvoir éviter.
Ça exige une parfaite intégrité de ceux qui créent.
Absolument.
Les associations et les fonds fonctionnaient bien sûr.
Absolument.
Vous êtes d'accord avec ça?
Je suis absolument d'accord avec ça. Et aussi, ça exige aussi un contrôle clair. Personne ne doit être au-dessus de la loi. Il faut que nous soyons tous société civile et gouvernement gouvernés par la loi.
Le meilleur des vraies voix de Sud Radio avec Philippe David qu'on retrouvera cet après-midi en direct à partir de 17h pour de nouveaux débats et de nouvelles actualités. Pour l'heure, il est 5h51, c'est l'heure de retrouver notre lève-tôt du jour. Et ce matin, nous prenons la direction de l'Uzèche. Nous sommes dans le Lot avec un boulanger qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Charles Collin, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue sur Sud Radio. Comment ça va ce matin, Charles?
Ah bon, ça va impeccable. Je suis debout depuis minuit, donc tout va bien.
Debout depuis minuit. Alors, ouais. Je savais que les boulangers, on le sait, se lèvent tôt. Minuit, c'est particulièrement tôt, non?
Alors, je travaille en direct justement pour éviter les hautes chaleurs, par exemple, quand on a 3-4 heures du matin où il fait pas si chaud, il fait pas si frais que ça. Donc, minuit, c'est très bien. Et bon, ça me permet d'être carrément tranquille. Je suis pas toujours embêté à droite à gauche par le téléphone, par les clients. Je peux vraiment m'occuper sur le travail, quoi.
Vous êtes simplement embêté un petit peu par Sud Radio, quoi.
Ouais.
Bon, c'est gentil en tout cas d'être avec nous. Charles, boulanger à l'Uzèche, mais originaire de Lille, c'est ça?
C'est ça.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez décidé de migrer dans le Lot à l'Uzèche? Vous étiez déjà boulanger dans le Nord?
Oui, je suis boulanger, j'étais déjà boulanger dans le Nord depuis mes 18 ans, j'en ai 34 maintenant. Donc je suis boulanger depuis un petit moment dans le Nord. Je suis venu ici tout bêtement parce que ma sœur a déménagé il y a quelques années en Occitanie, donc pas à Luzèche mais des petits villages d'à côté. Et c'était l'occasion rêvée de venir en vacances. Donc je descendais tous les ans pour en vacances et puis il y a une année, donc c'est en 2020, je suis descendu, je ne suis pas remonté.
D'accord.
Je suis resté.
C'est une décision radicale, courageuse aussi.
Oui, un gros challenge et j'aime ça, donc c'est parfait.
Ben oui, c'est parfait. Alors du coup, double inspiration, ça veut dire on a d'un côté le Nord et le Lot qui se retrouvent dans vos produits. C'est ça aussi que vous mettez en avant ?
Exactement. Je fais je vais y arriver. Je fais de base que les pains du Nord, donc tout ce qui est pain platine, les marguerites, des longues baguettes de 60 cm, vraiment des pains très tendres que nous, dans le Nord, on est habitué à manger. Ouais. Mais avec les produits locaux d'ici.
Alors par exemple.
Ça fait un bon mélange. Ouais. Par exemple, le pain, qu'est-ce que j'ai fait qui est vraiment du Nord et du Sud ? Le vigneron. C'est un pain que nous, on mange beaucoup dans le Nord. Et je prends le vin de Cahors, justement, pour le faire. Donc, je vais macérer mes raisins pendant 6 heures dans le vin de Cahors. Ah, c'est un pain exceptionnel.
Ah oui ?
pour le sucré salé, c'est parfait.
Qu'est-ce qu'on va manger avec ?
On peut tout manger, du fromage, du pâté, du chocolat, pour celui qui aime.
Ouais. Oui, ça se marie avec beaucoup de choses. Vos clients, du coup, c'est vrai que ça doit être un petit peu original, là, de voir un petit peu ces recettes venues du Nord. Ils sont peut-être pas habitués, ils étaient peut-être pas habitués.
Non, ils étaient pas du tout habitués. En plus, j'ai repris un boulanger où ça faisait 35 ans qu'il était là, il faisait que du pain d'ici. Donc moi qui suis tout jeune, je suis arrivé, j'ai tout cassé les codes, j'ai dit hop, moi je vais pas faire comme tout le monde. Le but, c'est justement de se démarquer. C'est comme ça que je me démarque. Et au final, ça a plu et ça plaît toujours aux clients.
Ouais, ils se sont habitués et ça leur plaît, quoi.
Ah oui. Ah oui, j'aime bien.
c'est quoi ce qu'ils préfèrent, alors, chez vous ?
Un peu de tout, je dirais. Beaucoup de spéciaux, tout ce qui est pain maïs, le vigneron, les pains authentiques. Donc, c'est toutes des recettes que j'ai fait avec mes meuniers, avec mon meunier, parce que j'en ai qu'un.
Ouais.
On a travaillé beaucoup dessus. J'ai travaillé avec ma sœur dessus, parce que ma sœur, elle travaille avec moi en vente, c'est la responsable, c'est mon bras droit.
Est-ce que vous l'avez rejoint sur place? En plus, du coup, vous travaillez avec elle.
Exactement.
Oui.
Souvent travaillé avec ma sœur pendant pas mal d'années dans le Nord, donc et c'était logique que je récupère ma petite sœur ici.
C'était tout naturel, oui.
Ah bien sûr.
oui, effectivement. Bon, ouverture à quelle heure ?
On ouvre à 7h jusqu'à 19h non-stop.
7h, 19h, donc à Luzèche, Charles Collin. Vous faites du pain ? Vous faites également, du snacking ou de la pâtisserie ?
On fait du snacking, on fait du snacking. J'ai un pâtissier exceptionnel justement pour faire des gâteaux exceptionnels.
C'est quoi son gâteau le plus exceptionnel à votre pâtissier ?
C'est très compliqué parce que j'aime tout. Là, il a fait un gâteau exotique tout en mousse. On met son nez dedans, c'est terrible. On mange tout. Je sais pas dire moi, malheureusement.
En plus, alors vous êtes le premier, voilà.
Moi, je goûte tout,
ses créations.
Vous avez bien raison. Derrière lui, je goûte tout ce qu'il fait. Je peux pas m'empêcher.
On salue aussi le pâtissier Charles Collin. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. C'était un plaisir, boulanger à Luzèche. Dans le Lot, originaire de Lille, ça fait un beau mélange. Charles, passez une très belle journée.
Merci vous aussi, bon courage.
Merci beaucoup, 5h56 sur Sud Radio. C'est l'occasion d'ailleurs d'écouter, de saluer tous les boulangers qui nous écoutent. Je sais que vous êtes nombreux dès ce matin, 5h56, dans un instant après l'horoscope, la météo et les infos.
Dans un instant, le petit matin Sud Radio avec Benjamin Glaise est de retour.
Trois lieux et une même passion, bien manger et partager. À Toulouse, découvrez l'univers gourmand du Stade Toulousain, le Grand Café du Stade, pour un buffet maison à volonté le midi et des tapas inspirés du Top 14 le soir. La Brasserie du Stade, pour une cuisine gastronomique raffinée au cœur d'Ernest Vallon. Et le Clubhouse du Stade, pour une pause conviviale entre tennis, soleil et cuisine moderne. Trois ambiances et un même esprit, celui du rugby et du plaisir. Réservez votre table dès maintenant et vivez l'expérience Stade Toulousain autrement.
Pour votre santé, bougez plus.
Sud Radio Axe-les-Thermes.
103.
Sud Radio. L'horoscope Sud Radio.
Bonjour Bénédicte.
Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 13 juin. Bélier.
Rien ne vous arrête aujourd'hui. Votre belle humeur active facilite le bon déroulement de vos projets dans tous les domaines. Taureau, les conflits autour de vous glissent sur vous sans vous blesser. Et c'est vous qui aplanissez les conflits. Belle performance. Gémeaux, vous serez désarmant pour stopper la mauvaise humeur de certaines personnes de votre entourage, tout en douceur. Cancer, ce sont vos amours qui sont au devant de la scène aujourd'hui. Votre soif d'aimer vous envahit totalement. Lion, vous évoluerez vers vos rêves. Cela vous distrait du présent. Concentrez-vous sur des détails pratiques. Vierge, vous sentez votre sensibilité s'approfondir. Il serait bon de comprendre les bienfaits que vous pouvez en extraire. Balance, ne vous laissez pas envahir par les besoins des autres. Ce serait au détriment des vôtres. Vous ne pouvez pas vous le permettre. Scorpion, la journée va se dérouler sur les chapeaux de roue. Prenez le temps de réfléchir avant d'agir et sans râler. Sagittaire, reprendre du tonus vous est vivement recommandé. Votre altruisme vous a mené trop loin. Reposez-vous et pensez à vous davantage. Capricorne, vous vous sentez bien dans votre peau et vous n'hésitez pas à partager votre bonne humeur. Que du positif. Verseau, vous traversez une période clé et très positive de votre vie. Vous devez en profiter. Poisson, une trêve prend fin. Vous allez vous sentir beaucoup plus libre d'action que vous ne l'étiez.
Merci beaucoup Bénédicte.
La météo Sud Radio.
Bonjour Rémi André.
Bonjour Benjamin, bonjour tout le monde.
Bon, encore beaucoup de chaleur, on s'en est rendu compte ce matin. Et qui dit chaleur, orage également aussi à prévoir, c'est ça?
C'est ça, exactement. C'est-à-dire le temps est lourd. Déjà ce matin, les températures sont souvent voisines de 15 à 25 degrés. Déjà ce matin, et donc dans la journée, ça va chauffer. Avec des températures qui dépasseront souvent les 30 degrés. À Paris, 33 degrés. On ira jusqu'à 34 à 35 degrés par certains endroits. Notamment sur le nord-est, sur 35 degrés sont prévus également sur... entre le Limousin, l'Auvergne, 34 degrés à Toulouse, donc vous voyez souvent 30 degrés. Et nous avons donc du vent de sud qui fait remonter cette chaleur, et en même temps nous avons sur l'ouest du pays eh bien de l'air humide qui va arriver par l'océan, un petit peu plus frais même, avec une dépression qui elle va venir en contact avec cet air chaud. Et donc dans l'après-midi et surtout dans la soirée, attention aux orages. Alors des orages qui concerneront principalement la Normandie, le bassin parisien, les Hauts-de-France, ensuite le sud-ouest également pourrait être